Chapitre 2. Les pieds sur Terre. La planète Terre. Dans ce chapitre, la Terre, notre planète, une planète 5 continents, la tectonique des plaques, milieux et climats, les risques naturels. Contrairement à nombre d'autres planètes du système solaire, la Terre ne doit pas son nom à une déesse de la mythologie grecque ou romaine. Plus modestement, son nom provient du latin terra, qui désigne non seulement la matière elle-même, mais aussi le sol, la surface sur laquelle se déplacent les hommes. Enveloppée par une ceinture de gaz, son surnom affectueux de planète bleue lui vient des océans qui occupent 71% de sa superficie. Mais si des conditions particulièrement favorables ont permis l'apparition de la vie, il y a environ 3,8 milliards d'années, l'activité permanente de son sous-sol et de son atmosphère, combiné aux effets de l'exploitation intensive de ses ressources par l'homme, en fait aussi parfois un endroit dangereux à habiter. La Terre, notre planète. La Terre est la troisième planète du système solaire d'après sa position par rapport au Soleil, après Mercure et Vénus, et la cinquième d'après sa taille, après Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus. Sa naissance, il y a environ 4,55 milliards d'années, serait consécutive à la contraction d'un nuage de gaz et de poussière en rotation dans l'espace. Devenue une boule de matière en fusion, elle se refroidit en surface quand le cœur liquide demeure porté à une température supérieure à 5000 degrés Celsius.
Un homme précis. L'astronome alexandrin Ératosthène, qui vécut au IIIe siècle avant Jésus-Christ, est à Assouan, dans le sud de l'Égypte, quand il entreprend son calcul de la circonférence de la Terre. Au moment du solstice d'été, le 21 juin, à midi, le soleil est à son zénith. La preuve en est fournie au moment où il éclaire le fond d'un puits. Au même moment, à Alexandrie, à 5000 stades de là, un stade grec équivaut à 160 mètres, des amis mesurent l'ombre d'un obélisque dont la hauteur est connue, afin de calculer l'angle que font les rayons du soleil avec la verticale. Le résultat est de 7,2 degrés. L'astronome effectue le calcul suivant. 360 degrés, soit la circonférence du cercle, ici la Terre ronde, multiplié par 5000, la distance à Assouan-Alexandrie, divisé par 7,2, l'angle calculé, égale 250 000 stades. Il en déduit que la circonférence de la Terre est de 250 000 multiplié par 160 mètres, soit environ 40 000 kilomètres. Par rapport au calcul moderne, Ératosthène ne s'est trompé que de 75 kilomètres. Et tout cela au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Chapeau.
La structure de la Terre. La structure de la Terre est composée d'une succession de couches concentriques, la croûte continentale, la croûte océanique, le manteau et le noyau. L'atmosphère terrestre. Elle enveloppe la Terre sur environ un millier de kilomètres d'épaisseur. Plus l'altitude s'élève, moins l'atmosphère contient de gaz. Au niveau de la Terre, elle est composée de 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% de gaz rares. L'atmosphère s'est formée il y a environ 3 milliards d'années après que des pluies torrentielles se sont abattues sur la Terre. Au fil du temps, elle s'est enrichie en oxygène et a développé à 25 km d'altitude une couche d'ozone, un gaz bleu toxique à forte odeur qui filtre les rayonnements mortels, les rayons ultraviolets émis par le Soleil et laisse passer ceux dont nous avons besoin pour le maintien de la vie. Chaque jour, 12 à 15 mètres cubes d'air nous sont nécessaires pour respirer. Voici comment se décompose l'atmosphère. La troposphère est la partie de l'atmosphère située à 15 km d'altitude en moyenne. C'est là que se forment les nuages, car elle concentre 90% de la masse d'air et de la vapeur d'eau. Sa composition est identique à celle de l'atmosphère. La température y est de moins 56 degrés Celsius dans la zone qui la sépare de la stratosphère. Les phénomènes météorologiques s'y produisent et s'y développent. Tonnerres, éclairs, foudre, anticyclone, dépression, orage, tornade, typhon, ouragan, pluie, neige. La stratosphère est située entre 15 km et 50 km d'altitude environ. La température s'y élève pour atteindre presque 0 degré Celsius à 50 km, alors qu'elle est de moins 80 degrés Celsius à la limite d'avec la troposphère. C'est là que se trouve la couche d'ozone qui absorbe les dangereux rayons solaires ultraviolets. D'une grande stabilité, ces diverses couches sont maintenues par la hausse régulière de leur température interne. Bougeant peu, les différentes couches ressemblent à des couches de terre empilées ou strates, d'où son appellation. La mésosphère, littéralement sphère moyenne, est située entre 50 et 80 km d'altitude environ. Troisième couche d'atmosphère la plus élevée, elle constitue la séparation véritable entre le domaine terrestre et celui de l'espace intersidéral. La température recommence à décroître et atteint moins 80 degrés Celsius à 85 km. En la traversant, les météores et les poussières s'enflamment, donnant naissance aux étoiles filantes. La thermosphère. Étymologiquement, qui chauffe la sphère, est la couche externe de l'atmosphère. Elle s'étend au-delà de 85 km d'altitude. La température s'élève encore en fonction de l'altitude pour atteindre 500 degrés Celsius vers 250 km, 1600 degrés Celsius vers 500 km. D'une très faible densité et ne comportant pas d'air, elle ne brûle pas les objets qui la traversent. Au-delà de 10 000 km, la thermosphère devient l'exosphère ou atmosphère externe. Il s'agit d'une partie complexe car elle tend à se mélanger à l'espace dont il est difficile de la séparer nettement. Une planète, 5 continents. Les terres émergées représentent environ 30% de la surface de la Terre. Traditionnellement, elles sont regroupées en 5 continents. Ce sont par ordre de superficie décroissante l'Europe et l'Asie, formant ensemble l'Eurasie, l'Afrique, les deux Amériques et l'Océanie. Il est possible de considérer l'Antarctique comme un 6e continent, car il s'agit de terres en permanence recouvertes d'une épaisse coupole de glace. En bonne anthropocentriste, plaçons une fois encore l'homme au centre de son univers, cette terre solide qu'il foule aux pieds. Solide ? Rien n'est moins sûr. Il a fallu 200 millions d'années pour rassembler tous les morceaux d'un continent unique, la Pangée, et 200 millions d'années de plus pour séparer les éléments de ce continent et leur permettre de devenir les continents actuels. Attention, cette séparation se poursuit, provoquant raz-de-marée et tremblements de terre. Pangée, l'Eurasie et Gondwana. Les continents se séparent ensuite il y a environ 65 millions d'années. L'histoire des océans se développe en parallèle. Le plus ancien, appelé Lapetus, est refermé par la formation de la Pangée. Puis, quand elle se sépare en deux, apparaît un nouvel océan, Tétis. Il se referme à son tour il y a environ 80 millions d'années quand s'amorce le mouvement de séparation de nos actuels continents. L'océan Tétis est remplacé par l'ouverture des actuels océans Atlantique Sud et Indien. Ensuite se forment le Pacifique et l'Atlantique Nord. L'Europe. Son nom nous vient du grec Europos, aux larges yeux ou au large visage. Une fois l'unanimité faite sur son nom, tout devient plus compliqué. Ses frontières géographiques, tout d'abord. Doit-on ou non la faire finir à l'est, au mont Oural, considérer que le détroit du Bosphore l'isole de l'Asie, ou intégrer la Turquie à l'ensemble européen? La limite au sud est plus nette avec la Méditerranée et le détroit de Gibraltar qui la sépare de l'Afrique. L'Islande, éloignée du continent par quelques centaines de kilomètres de mer, ou Chypre en Méditerranée, sont pourtant européennes. Politiquement, ensuite, car l'immense Russie est en grande partie asiatique. Il semble toutefois possible, dans ce vaste ensemble de plus de 10 millions de kilomètres carrés, d'envisager de privilégier la masse du continent accolé à l'Asie et de parler de continent eurasiatique.
Le saviez-vous ? un taureau entreprenant. Dans les métamorphoses d'Ovide au champ 14, la déesse Europe, fille d'Agénor, se promène avec ses compagnes sur une plage de Tyr, en Phénicie, sur la côte de l'actuel Liban. Séduit par sa beauté, Zeus, le roi des dieux, se transforme en un taureau d'un blanc immaculé et s'approche d'Europe. D'abord effrayée par le puissant animal, la jeune fille ne tarde pas à s'en approcher et à orner son cou de collier de fleurs. Enhardie, elle grimpe sur son dos. Zeus, qui n'attendait que cela, se jette impétueusement dans les flots et nage jusqu'en Crète, où il s'unit à elle sous une forme humaine. Versatile, il se lasse d'elle et l'offre en mariage au roi de Crète, Astérion, auquel elle donne trois fils, Minos, Sarpédon et Radamante. L'héroïne de cette idylle, brève mais charmante, donna son nom à notre continent. Pendant ce temps, l'amant inconstant revint aux cieux pour y donner naissance à la constellation du taureau.
L'Asie. Son nom vient d'une racine sémitique, Esh, qui désigne le lieu où se lève le soleil. Pour les Grecs, elle est l'épouse du titan Prométhée. Géographiquement, l'Asie forme une continuité territoriale avec l'Europe. La frontière du mont Oural est purement conventionnelle. Elle est en revanche plus nettement séparée de l'Amérique par le détroit de Bering. C'est le plus vaste des continents, avec plus de 44 millions de kilomètres carrés. Cette immensité explique qu'il est préférable de parler des Asies. L'Afrique. Son nom provient de celui d'une tribu berbère, les Afris, ainsi nommée par les Romains. Ils étaient installés dans la région de Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Pour les Romains, l'Afrique désigne une province de l'Empire comprenant la Tunisie et l'est de l'Algérie. Il faut attendre le XVe siècle pour que le terme désigne tout le continent. La superficie de l'Afrique, un peu plus de 30 millions de kilomètres carrés, représente 20% de celle des terres émergées. Elle se présente comme un bloc homogène de 7000 km environ du nord au sud et d'un peu moins d'est en ouest. L'Amérique. Ce continent doit son nom à Amerigo Vespucci, le navigateur florentin, à qui le géographe Martin Waldseemüller en attribue la découverte. Dans sa Cosmographie de 1507, celui-ci propose en effet de dénommer Amérique la quatrième partie du monde. D'une superficie totale de 41,9 millions de kilomètres carrés, elle se divise en trois grandes zones géographiques, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, respectivement d'une superficie de 21,3 millions de kilomètres carrés, 17,7 millions de kilomètres carrés et 2,9 millions de kilomètres carrés.
Le saviez-vous, Éric le Rouge, découvreur de l'Amérique. Une saga nordique relate les exploits d'un héros nommé Éric le Rouge. En 982, proscrit par ses pairs, celui-ci fuit l'Islande, met le cap à l'ouest et atteint le Groenland. Après de multiples aventures, il retourne en Islande et met sur pied une expédition conséquente. C'est à la tête de plusieurs centaines de colons, répartis sur 25 bateaux, qu'il retourne alors au Groenland, la Terre Verte, pour y fonder une communauté, forte de 12 000 membres au XIIe siècle. Dommage pour Colomb.
L'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord est composée du Canada, des États-Unis et du Mexique. Les États-Unis sont composés de 50 États, dont 48 en continuité territoriale et deux isolés. L'Alaska, à l'ouest du Canada, et les îles Hawaï à près de 4000 km des côtes californiennes dans l'océan Pacifique. Leur superficie totale est de 9,6 millions de km carrés pour une population de 269 millions d'habitants environ en 2005. La densité moyenne y est de 30 habitants par kilomètre carré. Pays situé le plus au nord des deux Amériques, le Canada est composé de 10 provinces, dont le Québec majoritairement francophone, et de trois territoires. Sa superficie totale est de 9,9 millions de kilomètres carrés, pour une population de 32 millions d'habitants environ en 2005. La densité humaine y est remarquablement faible, avec seulement 3 habitants par kilomètre carré. Le Mexique, transition avec l'Amérique centrale, est séparé des États-Unis par le Rio Grande et de l'Amérique centrale par le Guatemala et le Belize. Sa superficie totale est de 1,9 million de kilomètres carrés pour une population de 106 millions d'habitants environ en 2005. La densité moyenne y est de 54 habitants par kilomètre carré. L'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud est composée de 12 États, par ordre alphabétique: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela. Il faut y ajouter la Guyane, un département d'outre-mer. L'Amérique centrale. Pour des raisons de proximité linguistique et culturelle, il est possible de rattacher à l'Amérique du Sud l'Amérique centrale, en considérant alors l'ensemble du monde d'Amérique latine, fondé sur l'usage de l'espagnol et du portugais comme langue dominante. Les 7 pays d'Amérique centrale sont par ordre alphabétique Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador. L'Océanie. Le plus petit des continents doit son nom au géographe d'origine danoise mort en 1826, Malte Conrad Brun, qui baptisa Océanie, ou continent-océan, cet espace peu pourvu en terre. Les deux principaux pays en sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande, suivis de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Antarctique. L'Antarctique doit son nom à la constellation de l'ours, grande et petite, Arctos signifiant ours en grec, comme l'Arctique auquel il est opposé. C'est le plus petit des continents, à l'exception de l'Europe. Couvert de glace, il est totalement dépourvu d'habitants. Seuls, d'héroïques scientifiques en mission, environ 1000 par an, y installent des bases pour y accueillir les informations nécessaires à l'avancement de leurs travaux. L'exploration du continent se fait à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, notamment à l'initiative du Français Dumont d'Urville, qui l'atteint en 1840. Par le traité de Washington, daté du 1er octobre 1959, l'Antarctique est placé sous statut de territoire internationalisé. Ceci signifie que les activités de recherche scientifique y bénéficient d'une totale liberté. En revanche, les activités militaires y sont formellement interdites. Depuis 1988, une exploitation des ressources minières est envisagée.
Le saviez-vous, la planète bleue? Nous avons tendance à l'oublier. Mais les mers et les océans recouvrent l'essentiel de notre planète, environ 70%, et leur gigantisme laisse loin derrière les continents. D'où le nom familier de planète bleue, par référence à la couleur de la Terre vue du ciel. Traditionnellement, on dénombre 4 océans, à savoir le Pacifique, d'une superficie de 165 millions de kilomètres carrés, l'Atlantique, vaste de 82 millions de kilomètres carrés, l'océan Indien avec ses 73 millions de kilomètres carrés, et enfin l'océan glacial Arctique, fort de 14 millions de kilomètres carrés. Des chiffres qui offrent d'inépuisables perspectives à la thalassothérapie.
La tectonique des plaques. C'est le chercheur allemand Alfred Wegener qui émet en 1915 l'hypothèse de continents portés par des sortes de radeaux qui dérivent, car ils sont posés sur une couche plus profonde de roches visqueuses. Ces radeaux mouvants sont appelés plaques tectoniques. D'une épaisseur de 100 km seulement, les plaques, mues par la chaleur du magma, se déplacent de quelques centimètres tous les ans, entre 2 et 5 cm en moyenne. Ce mouvement peut écarter ou rapprocher les plaques et s'accompagne de modifications de la structure de l'écorce terrestre. Les failles se produisent lorsque deux plaques s'éloignent l'une de l'autre. La plus célèbre est celle de San Andreas en Californie, située au point de rupture entre la plaque américaine et la plaque de Nazca, une de celles de l'océan Pacifique. Les séismes ou tremblements de terre surviennent quand deux plaques se rapprochent, provoquées par la violence du frottement.
Le saviez-vous ? Le continent englouti. L'Atlantide est évoquée pour la première fois par Platon dans deux dialogues, le Timée et le Critias. Il s'agit d'un continent, plus grand que la Libye et l'Asie mises ensemble, situé au-delà des colonnes d'Hercule, notre détroit de Gibraltar, qui aurait été englouti dans un cataclysme 9000 ans avant l'époque de Platon, qui vécut au IVe siècle avant Jésus-Christ. Critias en connaît l'existence par le récit de son grand-père, lequel le tenait d'un prêtre égyptien. Riche, administré par de sages rois, habité par des hommes vaillants, l'Atlantide devient la référence de toute société idéale. Le mythe est repris et adapté par de nombreux auteurs dès le XVIIIe siècle, notamment par Olof Rudbeck, qui exalte les valeurs des peuples nordiques dans Atlande ou Mannheim, par le poète catalan Verdagère, qu'il identifie à l'Amérique en 1876 dans Atlantida, par Pierre Benoît, qui la localise dans le Sahara avec l'Atlantide, publié en 1919, ou encore Michel de Grèce, qui y voit en 1972 la Crète dans la Crète, épave de l'Atlantide. Amérique, Crète, île de Santorin, ou même Bahamas, chacun peut à ce jour localiser sa propre Atlantide, son idéal, en l'absence de toute certitude archéologique.
Au cours des années 1960, la théorie de la tectonique des plaques est dépassée par celle de la tectonique globale, selon laquelle il faut différencier une croûte continentale et une croûte océanique. Plus lourde, plus dense, la croûte continentale se déplace moins vite que la croûte océanique. 5,6 km seconde contre 6,5 km par seconde, ce qui crée des tensions et provoque la dérive des continents.
N'oubliez pas, tous aux abris. Comme le préconisait Horace dans le livre 1 de Césode, Carpe Diem, profitons de ce jour qui passe. Suivons le conseil des anciens Romains car, dans 50 millions d'années, l'Amérique aura reculé de 1000 km par rapport à l'Europe. La Californie sera devenue une île au cœur du Pacifique. La Méditerranée aura disparu. Espagne et Maroc ne formant plus qu'un. La France sera réduite des deux tiers, submergée par l'Atlantique. Une immense chaîne de montagnes ira des Pyrénées jusqu'au Tibet. Et la planète sera à moitié recouverte d'eau peu profonde. Et dans 200 millions d'années, les continents se ressoudront en un seul gigantesque désert aride. Il fera près de 50 degrés Celsius le jour et moins 30 degrés Celsius la nuit.